CPU 表里不及预期了。
Dans cette release de CPU, alors pour ouvrir le fichier, tu cliques sur ce menu. Non, pas la barre du haut, celle de la fenêtre. Voilà, maintenant tu peux choisir ton fichier dans la troisième colonne là, de la fenêtre qui vient d'apparaître. Ça va être très long. L'équipe aujourd'hui, Eugène Lowe et Dascritch, notre invité est Maïtan et Maïwan Lenoir, web designer and UX freelance designer. UX designer freelance, et j'espère que tout le monde public inclus a mis son portable sur silencieux. Bonjour Eugène.
Salut. Je me suis toujours posé une question depuis le temps que j'écoute ce jingle. C'est comment on fait si pendant l'émission on doit être absolument joint? Imagine par exemple l'assistante du dentiste doit me rappeler en ce moment parce que j'ai une carie à soigner.
Voilà. Alors comment nous enregistrons au sein de l'atelier TA et Eugène se fout ouvertement de ma gueule puisque nous enregistrons le 1er novembre à 21h.
C'est vrai. Mais alors les dentistes, c'est des professions libérales, hein. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent me soigner un 1er novembre à 21h, ils pourraient très bien.
D'accord. Alors en attendant, donc nous sommes à l'atelier TA qu'on remercie une fois de plus. On remercie bien évidemment le public d'être présent. Bonjour
Venu en nombre, le public.
Bonjour Maïwan, d'être avec nous. Ça faisait super longtemps qu'on voulait faire ce sujet. On y arrive. Hein. Mais j'ai l'habitude des sujets qui mettent du temps. En tout cas, merci d'être venu.
Ça va être encore plus cool maintenant que tu as attendu.
Ouais. Tu dis ça par rapport à la température ambiante, cool, tout ça? Non, c'était un jeu de mots. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi, dont la rétine est encore toute éblouie du thème de bureau violet mauve installé par ta petite sœur. Oula. Je crois que maintenant, tu as compris qu'il y a deux sortes d'univers informatiques. Le logiciel propriétaire et le logiciel libre. Dans l'un, tu achètes une licence d'usage et tu installes le soft produit fini tel qu'il est. Tu n'es qu'un client et puis c'est... Dans l'autre, tu as le droit de le copier pour toi, pour ton voisin, pour ton prochain. Tu peux regarder sous le capot et tu peux même participer à son développement. Mais si installer un Linux ou un Windows, c'est désormais kiff-kiff bourricot en termes de difficulté, c'est un terme technique, il faut reconnaître que le monde du logiciel libre revient de loin, revient de très très loin. En 2000, Linux et compagnie étaient des repoussoirs. Graphiquement, affreux. Fonctionnellement, rebutant. Et d'une prise en main malaisée pour le non-spécialiste. Franchement, il fallait en vouloir pour mettre quelqu'un sous Linux. Il faut reconnaître que le Mac avait un aspect classieux avec son design accueillant et simple qui fait tout pour cacher tout début de complexité à l'utilisateur au risque de trop simplifier. Quant à Microsoft Windows, il était familier quand on le voyait partout et qu'il donnait beaucoup de contrôle. Beaucoup de contrôle. Beaucoup de contrôle au risque de montrer trop d'informations. Alors que Linux, non mais franchement, déjà, on commençait par la ligne de commande si l'interface graphique avait le malheur de ne pas être configurée ou de planter. Ensuite, on avait un shell graphique, soit le GNOME qui singe macOS ou KDE, ce qui est d'année de Windows. Bah, on avait des programmes qui ont des interfaces très différentes. Alors, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était il y a 20 ans. Une fois, j'ai compté que j'avais 9 types de fenêtres d'ouverture de fichiers, tous très différents. Oui, il y avait Athena TK, il y avait plein de tout le kit absolument incroyable. Et ça dépendait suivant le programme que j'utilisais. Pire que tout, certains sélecteurs proposaient d'utiliser des marque-pages pour aller plus vite vers un répertoire. Ça, c'était génial. Sauf qu'ils ne partageaient pas ces raccourcis entre eux. Ah oui, donc sur GIMP, c'était là. Et là, non, mais là, je vais où là? Oh, bon, d'accord. L'énervement était garanti quand on lançait un programme nouvellement installé la première fois ou quand on le réinstallait. Enfant du futur immédiat, je ne te parle que de la prise en main quotidienne, mais imagine la gestion technique des paramètres de l'ordinateur. Mandrake, une distribution française, avait ouvert la voie à l'époque pour simplifier l'administration de son ordinateur à une époque héroïque où compiler le kernel n'était régulièrement que la meilleure réponse possible, c'est dire. Une opération qui prenait une journée complète, à condition d'avoir une machine très haut de gamme. Et franchement, on en avait déjà parlé 20 ans après, c'est toujours un bazar déprimant pour tout nouveau venu, par endroit. T'auras beau avoir des gens de très bonne volonté, comme des films à la saigne, qui tentent d'en parler le dimanche en famille, ben non, ça passait pas. Et d'un autre côté, des libristes audacieux avaient tenté l'impensable, compiler leurs projets sur Mac et sur Windows, et de là faire un effort pour que leur projet semble plus anodin, le moins déplaisant à utiliser justement dans ces systèmes-là. Firefox, VLC, LibreOffice, des applications qui existent sur toutes les plateformes et qui donc devaient être aussi facilement utilisables sur un OS libre. Ceux-là ont reçu les huées des extrêmes libristes qui n'acceptaient pas ce manque de pureté hors de ma distrib dans ce cas-là. Le monde du logiciel libre a des efforts à faire et comme le dit David Revoy, l'auteur du webcomic Peeper and Carrot, parce que libre et open source ne signifie pas au rabais ou à l'arrache. Le logiciel libre ne doit pas dire que les concepteurs peuvent tout se permettre, mais au contraire, avoir une obligation d'exigence. Mais bon, voilà que je m'emporte, tout dans le calme, hein, vous aurez remarqué, alors que le plus simple reste de participer pour que les choses soient enfin bien faites. Car qu'est-ce qui fait qu'une interface est engageante ? Le beau. Ah, il faut reconnaître. Mais est-il facile de parler de beau ? Pas tant que ça. Et est-ce qu'une interface qui est belle est-elle utilisable ? Pas toujours. Enfant du futur immédiat, c'est pas parce qu'un concept graphique est magnifique qu'il est réellement design. Ce mot englobe aussi le concept de fonctionnalité. L'oublier, c'est ne faire le travail qu'à moitié.
As a joke, but no one is laughing at. Not my kind. I can't be sure if it's yours or mine.
White Stripes, As Ugly As I Seem, extrait de l'album Get Behind Me Satan, sorti en 2005. Pour parler des interfaces de logiciels libres, nous avons souhaité recevoir une designer qui a une forte sensibilité UX, c'est pas automatique, et qui justement aime goûter de tout, en logiciel comme en service en ligne. Et il se trouve que notre invité avait déjà participé à CPU indirectement lors d'un segment, lors d'une des crypto-parties que nous avions précédemment diffusées. Nous recevons Maïtane Lenoir, alias Maïwan, UX designer freelance, balado travailleuse, déjà participante à cette émission donc via le site Crypto-Party et accueillante bénévole de chats en recherche de foyer. Je précise, c'est les chats qui cherchent un foyer et pas elle. Si vous êtes intéressé, quand même, on fera passer le message.
CPU carré petit utile.
Maïtane, quel a été ton premier contact avec un ordinateur ?
Quand j'étais gamine, dans ma chambre que je partageais avec ma sœur, on avait un Windows 98, je crois, et on avait des jeux dessus, et du coup, c'était moi la responsable de l'ordinateur.
Parce que tu étais plus vieille ?
Ouais, et puis de toute façon, au fur et à mesure du temps, c'était moi qui avais une plus forte sensibilité à l'informatique par rapport à ma sœur. Donc moi, je tapais sur les touches pour faire avancer le personnage, et ma sœur, elle regardait.
D'accord. Quel système d'exploitation as-tu connu ? Donc Windows, mais je crois qu'actuellement, d'ailleurs, tu es sur Mac ?
Ouais. J'ai fait du Windows 98 et après j'ai fait plusieurs évolutions et j'ai eu un Mac ensuite et j'ai jamais été sous Linux.
Ça arrive. Il y a pire comme tard, il y en a qui n'ont même pas connu l'Amiga. Lequel de ces systèmes que tu as, sur lesquels tu as travaillé t'a semblé le plus léché, le plus fini ?
Est-ce qu'on parle au niveau du graphisme ou au niveau du design ?
C'est deux critères qui sont effectivement intéressants que je n'avais pas prévus, mais tu peux en fait répondre aux deux.
J'ai trouvé que le plus fonctionnel, c'était le Windows XP, quand je l'ai eu, parce qu'il me semblait assez pratique, assez fonctionnellement utilisable, mais il n'était pas très beau. Et par contre...
T'as pas aimé Play School, toi.
Et après, j'ai été confrontée à Windows Vista, qui m'a semblé très beau et tout à fait inutilisable. Et donc, du coup, j'ai tout à fait saisi la différence entre avoir quelque chose de fonctionnel et quelque chose de joli, et que c'était pas forcément lié.
Ce qui répond un petit peu à l'intro que j'ai fait tout à l'heure, ce qui est parfait. Donc, même si tu n'as pas connu Linux, tu as commencé à goûter au logiciel libre. Mm-hmm. Comment tu es venu ? Marre de craquer les numéros de licence d'Internet Explorer ?
En fait, il y a deux vraies réponses à ça. C'est que j'étais utilisatrice de logiciels libres, mais sans savoir que c'était des logiciels libres. Il y a VLC qui correspond tout à fait à cette définition-là, parce que j'utilisais VLC parce que c'était hyper pratique et que j'ai jamais été déçue de l'utilisation de ce logiciel. Et j'ai découvert la notion de logiciel libre beaucoup plus tard par les valeurs, parce que je suivais des personnes qui étaient militantes sur Twitter et du coup qui m'ont initiée à qu'est-ce que c'était. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me renseigner et à basculer du côté obscur.
Ouais, de la ligne de commande.
Non.
Et en fait, qu'est-ce qui t'a plus qu'intéressé, motivé à t'intéresser en fait aux interfaces et à leurs impacts fonctionnels ?
Et c'est un truc de valeur qui est que moi j'aime faire des choses utilisables par les personnes. Leur faciliter la vie. Mmh. Et donc du coup faire des interfaces qui sont fonctionnelles et qui améliorent la vie des personnes, alors que on peut faire des interfaces qui leur pourrissent la vie, ça m'intéresse de faire basculer l'interface d'un côté plutôt que de l'autre.
Vers le DAC par terre ?
Non, pas du tout, non. Non, justement pour leur faciliter la vie, pour faire des choses chouettes.
D'accord. Quelle a été l'interface qui t'a été pour toi la plus mémorable positivement, au final ? Pas forcément sur l'OS, ça peut être sur un logiciel ou ça peut être sur un service en ligne.
Alors un service en ligne qui m'a beaucoup marqué. Est-ce que j'aimerais bien m'extraire de l'interface pour parler juste de l'expérience. C'est un service en ligne qui s'appelait Capitaine Train, qui s'appelle Trainline, qui...
Oui, redoutable.
Au niveau de l'expérience utilisateur, qui met un point d'orgue à avoir une très bonne expérience utilisateur. Et un jour, j'étais en retard pour prendre mon train. Et j'étais très stressée dans la voiture de la personne qui m'emmenait parce que j'avais peur de le rater. Et au moment où je me suis dit, il faudrait quand même que je me renseigne pour voir si je connais le quai et si je peux gagner du temps, j'ai déverrouillé mon téléphone et j'avais une grande notification qui me donnait le numéro du quai, le fait que mon train avait du retard et ma place. Et ça m'a instantanément soulagée et c'était un sentiment extrêmement positif. Et depuis, c'est ancré à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai une relation particulière avec ce service parce qu'il m'a apporté beaucoup de positif à un moment précis où j'avais besoin d'aide.
Oui, parce que Captain Train ne faisait qu'une chose, mais il le faisait super bien. Et face à eux, il y avait Voyage SNCF, dont l'expérience était absolument hallucinante, tellement que c'était inutilisable, quoi. Et puis il y avait aussi beaucoup l'humour d'ailleurs de Captain Train qui jouait de là-dessus.
Oui, ils font attention à avoir une expérience utilisateur où ils prennent soin des personnes, de leur parler de façon plus sympathique, tandis que Voyage SNCF a un ton plus formel. Et du coup, c'est une position différente, ça plaît ou ça déplaît, mais la cible de Captain Train était plus concentrée là-dessus. Et avec moi, en tout cas, ça fonctionne. Et vu la progression qu'ils ont eue, je pense que ça fonctionne avec pas mal de personnes qui étaient assez déprimées d'utiliser Voyage SNCF.
D'accord. On va écarter Voyage SNCF pour la question suivante, qui est quelle est l'expérience la plus négative que tu aies jamais vécue, qui t'a renversé la table, pleuré, énervé, fait entrer dans le militantisme.
Et c'est pas du tout un service en ligne, c'est quelque chose qui a été obligatoire pour moi quand j'ai créé mon auto-entreprise. Il faut passer par un formulaire fait par l'État et on a le droit à une espèce de succession de mauvaises expériences parce que le logiciel est vieux.
c'est rien, c'est un auto-entrepreneur qui a voulu ouvrir la fiche CERFA en question.
Parce que le formulaire est vieux, parce que la façon de communiquer les erreurs n'est pas évidente, parce que dès que tu fais une erreur, il efface tout, parce qu'il te demande des choses et tu ne sais pas ce qu'il te demande. Et tout s'accumuler a provoqué une expérience extrêmement frustrante, surtout que j'étais obligée de passer par là pour pouvoir ouvrir mon auto-entreprise. Et ça.
C'était il y a 2 ans en plus. Hein.
C'est ça.
Par curiosité, tu es allé voir si ça a changé ?
J'ai des amis qui sont en train d'ouvrir leur auto-entreprise et qui, sans que je leur en ai parlé, mettent les screens sur Mastodon en disant « C'est scandaleux quand même ce formulaire, qu'est-ce qui se passe ?» Et je me retrouve tellement dans ce qu'ils sont en train de vivre. Il n'y a pas d'amélioration, mais le formulaire date des années 90 à mon avis.
Il y avait déjà le web dans les années... oui, pardon, non, je croyais que tu disais dans les années 80, d'accord. Ok. On fait une petite respiration. Le temps de refermer le garage, justement. Tiens, j'ai quelque chose en garage.
Join us now and share the software. You'll be free. Hackers, you'll be free.
The New Stallmans, Free Software. En fait, donc, c'est une chanson qui a été écrite et composée par Richard M. Stallman, donc le créateur du mouvement GNU. Bande originale du documentaire Evolution OS et selon certains, ben, la démonstration absolue pourquoi un développeur ne peut pas tout faire et que non, Richard Stallman ne doit pas s'occuper de programmation musicale. Bah voyons, vous écoutez Radio Éphémère, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Maïwen, web designer et UX designer freelance. Alors là, maintenant, la question qui est vraiment compliquée à répondre, mais tu peux prendre ton temps. Au besoin, on mettra la version complète sur le site web. Quelle est la différence entre beau et utilisable ?
On va boire un coup, on revient tout à l'heure, hein, ouais. Plus tard.
Non, je reviens en régie.
Vous m'avez trop pris au dépourvu.
Vas-y.
Non, en vrai, c'est une question facile en plus. C'est parce que, alors, ce qui est beau, c'est quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de l'envie, donc ce qui donne envie, qui attire. Et quelque chose qui est utilisable, c'est quelque chose qui remplit sa fonction. Et donc, c'est quand j'ai un objectif, et ben, ça m'aide à, si c'est utilisable, ça m'aide à aller jusqu'à mon objectif.
Penses-tu que les interfaces arrivent vraiment à concilier les deux ? Est-ce qu'il y en a vraiment qui arrivent à faire les deux ?
Je pense que c'est possible et que c'est pas difficile à faire. Par contre, il faut que le fait de faire les choses, des choses belles, ça serve l'utilisabilité. Et que ça peut marcher que dans ce sens-là. Et donc, du coup, qu'il faut penser d'abord à comment faire quelque chose d'utilisable et que la beauté, comme c'est, en plus c'est subjectif, ça dépend des modes, ça dépend du temps et ça dépend de beaucoup de choses annexes. C'est complètement secondaire.
Et est-ce que tu peux donner un exemple d'interface qui est beau, mais strictement inutilisable, imbitable ? Tu n'es pas obligé de répondre iTunes.
Alors, strictement, je ne sais pas, même s'il y a des sites qui sont très beaux, mais qui sont parfaitement, enfin, qui sont des sortes d'expériences artistiques et donc qui ne sont pas utilisables, mais en même temps, ce n'est pas leur but. Par contre, ça me fait penser à quand j'ai voulu utiliser Windows 10, je crois, sur l'ordinateur de ma mère, et que, par exemple, c'était un moment où j'essayais de comprendre comment le système de fenêtres fonctionnait, et c'était très très beau, mais c'était complètement inutilisable et j'arrivais pas à m'en sortir par rapport à ça.
Ouf, je suis pas le seul. On a commencé à évoquer et préparer le sujet avec toi vraiment depuis un bail, hein, quand même, et tu as écrit entre-temps un article de blog « Pourquoi les logos des logiciels libres sont-ils moches ?» Quel a été le déclencheur ? On t'a encore demandé un logo gratuit ?
Pas du tout, c'est un article en réaction.
Très très bon article, on le mettra sur le lien sur la page de l'émission.
C'est un article en réaction à un autre article qui listait X raisons de pourquoi les logiciels libres ont des logos moches et qui me semblait très complaisant dans la façon de traiter le sujet et qui listait des choses du genre c'est marrant d'avoir un logo moche, c'est pas si grave. Et ensuite qui expliquait pourquoi les designers ne contribuaient pas à faire des logos pour les logiciels libres pour des raisons qui sont que le logiciel libre n'a pas d'argent pour payer les designers, ce qui m'a passablement énervée parce que j'estime que il y a pas de raison pour lesquelles les développeurs feraient des choses gracieusement et les designers seraient des personnes qui seraient motivées que par l'argent. Et qui concluait en disant ben en fait c'est pas si grave que les logos des logiciels libres soient moches, ce qui m'agace parce que dans ces cas-là, si on se complaît dans le fait de faire des choses qui soient pas fonctionnelles, bah on voit pas où est le problème.
Et donc on comprend pas pourquoi les gens ne vont pas vers le logiciel libre par là même, quoi. Est-ce que d'après toi cette réflexion s'applique sur l'ensemble des problèmes de design que l'on voit ? Comme quoi, bah non, il n'y a pas d'argent, ou bien non, les designers ne veulent pas s'impliquer dans un projet en bénévole.
Ouais, une des raisons qui avait été citée, c'était que les dans l'article, c'était les développeurs n'aiment pas voir du monde. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de designer qui était intégré dans les équipes. Et je trouve que c'est mal formulé, mais qu'il y a un vrai problème de communautarisme qui est que les développeurs se comprennent bien entre eux et ont des façons de fonctionner similaires, et où c'est compliqué d'ouvrir à d'autres...
Va une soirée Node.js, tu vas voir.
Hein. Ah oui.
Ils ne s'entendent pas forcément.
Mais c'est plus clivant quand c'est encore d'autres catégories de métiers. Et donc, pour les designers, c'est vraiment compliqué de s'insérer dans les process de développeurs parce qu'on ne leur laisse pas la place et que ça commence à arriver, mais que ça fait quand même beaucoup de temps qu'il y a de l'incompréhension et que c'est mis du côté des designers, alors que peut-être il faut d'abord regarder dans son pré pour voir où est le problème.
Y a aussi l'évolution des goûts, tu avais dit. Au bout d'un moment, des fois, les interfaces se démodent. Et d'ailleurs, on l'a vu chez Apple qui était vers le scomorphisme et ensuite Microsoft, au contraire, qui sont allés vers le minimalisme absolu. Donc, l'évolution des goûts et donc du design qui passe de acceptable à démodé. Est-ce que des fois, il faut savoir remettre en cause justement ce qui a été fait à un moment ? Et à quel moment on peut le décider que quelque chose ne va plus ?
Alors c'est très intéressant que tu parles de l'évolution du skeuomorphisme au flat design parce que à la base le skeuomorphisme donc c'est répliquer le plus fidèlement possible ce qui existe dans la réalité.
Avoir une belle poubelle métallique sur le macOS X.
Avoir un bouton avec des effets de dégradé pour bien qu'on ait l'impression que ce soit enfonçable. Et ça avait de l'importance au début parce que comme les personnes du grand public n'étaient pas habituées à utiliser les interfaces, il fallait qu'il y ait de la ressemblance avec la réalité pour que la personne puisse identifier, ok, ça c'est un bouton, ça ressemble à un bouton dans la vraie vie, donc du coup je sais que je peux appuyer dessus. Et ça a évolué vers le flat design parce que à force, les personnes ont compris que si jamais c'est un texte entouré d'un rectangle, c'est un bouton. C'est plus la peine de faire des effets de dégradé. Et donc, il y a une évolution comme ça. C'est pas obligatoire. Pour moi, la priorité, c'est que ce soit utilisable. Donc, un bon exemple, c'est VLC, qui, à mon avis, a pas fait une évolution vers le flat design, mais c'est pas grave, parce que c'est mieux parce que c'est plus agréable et ça donne plus envie si jamais l'interface est belle. Mais la priorité, c'est l'utilisabilité. Si c'est utilisable, ça sera utilisé parce que ça dessert les besoins que j'ai.
Et en même temps, on a connu des évolutions majeures, ne serait-ce que sur les 10 dernières années, puisqu'on est passé de l'écran cathodique à la dalle LCD un petit peu partout. Maintenant, on a carrément le mobile, ce qui veut dire qu'on a des interfaces qui sont purement tactiles. Donc, il y a des changements de paradigme, de manière d'interagir même avec les sites, avec les logiciels. Il y a encore des blocages dans certains programmes qui n'ont pas su évoluer. Qui prennent mal en compte justement cette évolution-là dans ce que tu as connu, évidemment.
Je dirais oui, forcément, parce que la technologie évolue hyper vite et que si jamais les évolutions sont pas faites à temps, le logiciel est pas au niveau l'arrivée du tactile, c'est quelque chose d'assez énorme et ça change beaucoup de paradigmes, même au niveau du design, et donc du coup, ça demande de retravailler sur les interfaces, et du coup, c'est un peu une double peine parce que ça redemande de faire du travail sur quelque chose qu'on pensait abouti. Mais comme c'est de la technologie et que ça fait que évoluer, il faut un peu se résoudre au fait que ça va continuer à.
On peut pas aller contre le progrès.
Ouais.
C'est pas cyclique, on ne verra pas les beepers.
J'espère.
Non, vous pouvez pas comprendre, c'est une blague tirée d'un épisode de Sortie Rock. Aujourd'hui, on enregistre à l'atelier TA grâce à nos amis Combustible et malheureusement, ils m'ont imposé quelqu'un que tu connais d'ailleurs, Maïwan. Il s'agit d'Eugène. Je crois que tu l'as déjà pratiqué et que tu sais que l'individu est complexe, donc fais gaffe parce que je sais que là, il pourrait boire quelque chose s'il t'en propose. N'écoute pas.
J'ai une petite potion en fait qui permet. Le but de ma chronique, c'est de revivre avec les auditeurs. Un rêve que j'ai fait souvent la veille en fait. Et donc j'ai une espèce de petite potion qui me permet de revenir sur mon rêve de la veille. Je sais pas si Daskri, tu reçois beaucoup de messages d'encouragement pour CPU, mais alors pour ma part, depuis qu'on a commencé cette émission et depuis que je fais des chroniques depuis septembre, je reçois énormément de retours positifs sur ma chronique. Alors voici le dernier en date, je le lis. Alors, ça fait « Bonjour Eugène, J'écoute CPU chaque semaine depuis la première émission en 1964, à l'époque de l'ORTF. Je tiens à féliciter toute l'équipe pour la qualité de ce programme. Par contre, vous concernant, si vous pouviez... Ah, je crois qu'il s'adresse à moi. Si vous pouviez ne plus faire de chroniques sur vos rêves absurdes et faire autre chose, je ne sais pas moi, aller au supermarché, faire vos courses ou boire un coup à une terrasse sans café, faire du footing le long du canal, vos chroniques ne sont pas très drôles et votre voix m'est insupportable.
Je suis obligé de couper la musique de fond.
Blablabla. Bref, que d'encouragement, cher ami. Merci pour ce message glorifiant. Alors, que ce soit clair entre vous et moi, je tiens à satisfaire l'ensemble de mes fans qui n'écoutent l'émission que pour m'y entendre. Vous l'avez sans doute remarqué, d'ailleurs, chaque semaine, le temps de ma chronique augmente légèrement et discrètement par rapport à la précédente. À ce rythme et au fur et à mesure des émissions, je devrais arriver à une chronique de 60 minutes lors de la dernière émission. C'est ce que l'on appelle de l'expansion radiophonique.
Attends, autre point d'un doute, j'avais pas commencé CPU comme chronique dans ton émission qui faisait 2 heures.
Et il y a longtemps.
Oui, c'est ce qui me semblait aussi.
À partir de ce moment-là, sur la dernière émission, il sera sans doute temps de rebaptiser l'émission « Le monde radiophonique d'Eugène », un titre bien plus sexy que CPU. Alors, je me dois de rassurer l'ensemble de mes collaborateurs, évidemment. Daskritch, j'aurai toujours besoin de toi pour lever des boutons sur la console de mixage, pour que mes fans entendent ma jolie voix. Et quant à Solarus, qui malheureusement est absent pour cette émission, il pourra toujours aller me chercher et m'apporter des bières pour que je puisse me désaltérer pendant les pauses musicales. Mais pour le moment, mes amis auditeurs, je vous demande un peu de patience. Nous n'en sommes qu'à ma 6e chronique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec cette jolie intro, je viens de gagner 54 secondes de plus par rapport à la chronique de la semaine dernière.
Alors, non, pas du tout, parce que la semaine dernière, on n'a pas fait émission, parce que je fais un break. Et qu'en fait, ça, c'est la première des émissions qui sera diffusée dans le bloc 2-3 qu'on enregistre aujourd'hui.
Je me suis fait couillonner sur l'enregistrement. Putain.
Tu devrais lire un petit peu les fiches de production quand même. Hein.
C'est vrai. À force de faire à l'arrache, voilà ce qui arrive. Bon, donc on va parler du rêve quand même que j'ai fait hier soir, c'est le plus important. Eh bien, figure-toi, mon bon Daskris, que j'ai rêvé que j'étais dans l'Aude pour creuser une tombe pour y enterrer tout un tas de logiciels libres abandonnés par leur communauté de développeurs et d'utilisateurs. Et pourquoi dans l'Aude ? Eh bien, tout simplement parce qu'en ce moment, la terre est beaucoup plus tendre dans cette partie de la France, surtout du côté de Trèbes, donc c'est beaucoup plus facile de creuser. Bon, je dois avouer, je suis pas
très
fier.
Théorie, il y a des gens qui nous écoutent.
Je suis pas très fier de cette vanne.
Non, mais franchement, ils vont tellement pleurer que ça va en être humide.
On continue. Reason, Six, Airtime, et au fur et à mesure des coups de pelle, je me remémore tout un tas de logiciels libres que plus personne ne veut faire évoluer parce qu'il y en a d'autres qui fonctionnent mieux ou parce que le principal leader de l'histoire a lâché prise et que personne n'a repris derrière. Les bugs ne sont plus corrigés et de moins en moins de gens les utilisent. Alors vous allez me dire, mais c'est honteux de dire ça, c'est complètement faux. Un logiciel libre ne peut être abandonné. Un logiciel libre, effectivement, n'appartient à personne et n'importe qui, à n'importe quel moment, peut reprendre le code du logiciel pour le débugger et le remettre au goût du jour. Encore faut-il que le code source de ces logiciels soit disponible quelque part sur Internet. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis développeur chez Microsoft, je fais du logiciel libre. Et tu le mets où, le code source de ton logiciel ? Dans un coffre-fort fermé avec un code à 18 chiffres ? Pourquoi ? Bon, vous l'aurez compris, dans le monde du libre, il y a pas mal d'incohérences et de contresens. C'est comme les types qui développent et qui te disent « Ah oui, alors on a besoin des retours utilisateurs, c'est important, c'est hyper important pour nous. » Et quand tu leur fais un retour sur une fonction manquante ou sur une interface peu ergonome, ils te disent « Oui, alors t'es pas développeur, déjà tu connais rien. » Et puis ils te demandent « C'est vraiment pas une priorité pour le moment. » Tiens, par exemple, il y a 2 mois, mon expérience à moi, il y a 2 mois, j'ai envoyé une demande à un développeur. Bon, je dirais ni qui c'est, ni sur quel logiciel il est très actif, sinon tu vas vraiment avoir des ennuis d'Ascritch. Hein. Je vous lis le mail très courtois que je lui ai envoyé. Salut face de rat, comme je t'ai vu... Comme j'ai vu, que tu étais super impliqué sur cette merde de bip, on dit pas le nom du logiciel, là. Est-ce que tu ne pourrais pas enfin bouger ton cul de développeur foireux pour mettre un putain de bouton pour avoir un historique des dernières actions en haut à droite de la fenêtre, ce qui rendrait enfin fonctionnelle cette bouse à laquelle tu collabores tête de cul ? Et bizarrement, il ne m'a jamais répondu.
C'est peut-être parce qu'il attendait la traduction.
Non, je pense que c'est surtout un développeur hyper égocentré sur lui-même qui se prend pour un crack en informatique sous prétexte qu'il connaît 3 bouts de code. Bon. Vous voyez, si les gens dans le libre étaient un peu plus humbles, s'ils arrêtaient de se froisser parce qu'on a eu un mot un peu dur à leur égard, bref, s'ils faisaient tout comme je leur dis de faire, alors, eh bien, on serait sans doute dans un beau bordel avec des logiciels dans un sale état. Le même état que le Sopalin à Solarus depuis qu'il a pris un abonnement premium à Jackie et Michel.
Non, non, pas cette histoire d'abonnement, non, arrête.
Car ce qui est important, finalement, c'est la multitude des utilisateurs et des développeurs qui œuvrent ensemble. Oui, c'est ensemble que l'on fabrique, qu'on améliore les logiciels libres. Utilisateurs, parce qu'ils font des retours d'usage, parce qu'ils remontent les bugs auxquels ils sont confrontés. Et il faut le faire, vous, moi et autrui, tout le monde. Mais après, derrière ça, ça sous-entend une communauté de développeurs, forcément, qui vont aller au-delà de leur envie personnelle, capables d'écouter et de mettre en place ce que préconisent les utilisateurs, même si parfois cela leur semble secondaire ou peu prioritaire. Merci d'avoir tendu l'oreille.
Incorrigible. Même pas au correcteur orthographique, terrible.
Beautiful sisters, feel the rhythm. Put your hands in the air. Be free. Be strong. Beautiful sisters, feel the rhythm. Put
Dimitri from Paris, Free ton style. Monsieur D, donc c'est un remix par lui, est sorti en 1997. Eugène va encore me traiter de vieux. Vous écoutez Radio FMR, c'est tout à fait normal. Vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes donc avec Maiwan, donc qui est designer freelance spécialisé UX. Et pas mal de logiciels libres, en fait, qui existent sur la plupart des distributions, sont des, entre guillemets, je vais dire, portages de logiciels propriétaires, dont l'aspect est souvent bien léché, les logiciels propriétaires en question, mais il n'est pas possible de cloner cette interface complètement. Alors, comment peut-on faire ? Est-ce qu'on doit vraiment créer quelque chose de totalement différent et se dire, non, c'est l'occasion de créer, et tant pis si on n'arrive pas à avoir les utilisateurs qui migreront de Photoshop à notre truc.
Je suis assez proche de la position que revendique Framasoft par rapport à ça, donc je m'inspire pas mal de ce qu'ils disent dans leur feuille de route Contributopia, qui en gros est que on n'aura jamais la force de frappe des personnes qui font du logiciel propriétaire, et que du coup la force du logiciel libre, c'est de faire une alternative en profitant des avantages qu'elle a de ne pas vouloir centraliser et de ne pas vouloir enfermer les personnes, et que c'est là que réside sa valeur. Et donc du coup, copier pour copier, à mon avis, c'est voué à l'échec de toute façon. Donc autant faire différemment, parce que ça sera une alternative potentiellement plus cool.
Quel serait l'échelon qui serait à mieux travailler pour, donc pas uniquement le monde Linux, mais le logiciel libre en général ? Est-ce que c'est le quotidien général, le contact quotidien, pardon, avec les utilisateurs grand public, ou les ateliers avec les associations locales, comme par exemple Tout Libre ?
Pour l'avoir fait plusieurs fois et avoir juste posé dans la même pièce derrière un même ordinateur un développeur de logiciel libre et un utilisateur de son logiciel libre qui lui faisait une démonstration de comment il l'utilisait et de ce qu'il comprenait, on apprend déjà énormément de choses, et du coup ça, c'est pas très compliqué, ça demande pas beaucoup d'organisation et c'est déjà hyper riche, donc ça pourrait être la première étape, ça me semble pas très compliqué à faire.
Et c'est ce qu'on appelle de l'UX d'ailleurs, hein, vraiment pur et dur.
Des tests utilisateurs, oui, c'est une méthode.
Quels sont les obstacles ? Ne pas reconnaître qu'il faut savoir déléguer, ou le manque de modestie, comme quoi l'équipe n'est pas totalement géniale, comme le faisait remarquer Eugène fort présentement, juste avant la coupure musicale.
J'ai l'impression que, comme dans beaucoup de choses, le problème revient souvent à la gouvernance du logiciel libre, de comment les décisions sont prises, de qui prend les décisions, et donc de est-ce que le pouvoir est partagé ou pas. Et un designer a souvent pas du tout de pouvoir, parce que comme c'est pas lui qui code les fonctionnalités qu'il met en avant, on peut être retoqué par des développeurs qui sont pas d'accord avec ce qu'on dit, qui ont pas confiance en notre expertise. Et donc du coup, si la gouvernance est mise à plat d'office et qu'on sait comment sont prises les décisions et qu'elles sont prises de façon collaborative, ça facilite beaucoup les choses. Mais il faut s'être posé la question en avance, et ça c'est pas toujours forcément fait, parce qu'en même temps c'est pas facile.
Et quelles seraient les leçons à prendre pour le logiciel libre par rapport au logiciel propriétaire ? Est-ce que finalement c'est le marketing, ou l'écoute, ou le moyen mis justement dans l'internationalisation, que sais-je ?
Le logiciel libre s'oppose souvent au logiciel privatif, parce qu'il y a cette notion justement de marketing, comme tu as dit, où le logiciel libre a des valeurs plus pures que ça, et je mets « pure » entre guillemets, et du coup, va pas jouer le jeu du marketing, et souvent le design est englobé dedans. Et en fait, pour moi, ça serait OK de prendre ça en compte, de faire du marketing. Et ça ne veut pas dire mentir aux utilisateurs, ça veut dire faire en sorte de leur faciliter la vie. Donc on est entre communication et marketing. Ça dépend si on se place de quel côté de la frontière on se place. Mais ça serait sympa de voir ce qu'il y a de positif dans le modèle des logiciels propriétaires, et pas de tout nier en bloc, parce que malheureusement, ils réussissent mieux que le logiciel libre.
On va prendre un contre-exemple. Elie Sloin, qui est donc un Bordelais qui fait d'excellents guides d'ailleurs sur la qualité des interfaces et tout ça, pour réussir justement proprement une interface d'un site, a tweeté à la mi-octobre 2018, donc il y a 15 jours quand on enregistre: Je viens d'installer la dernière version de Skype. Mon analyse, ils ont recruté des transfuges de chez Duplo et Fisher-Price et leur ont donné comme brief « Faites une IHM, une interface homme-machine, pour des enfants encore plus jeunes et niquez l'ergonomie aux cibles. Aussi, iTunes y arrive, vous pouvez le faire. » Est-ce que tu penses à d'autres logiciels proprio qu'il ne faudrait surtout pas prendre en exemple ?
Je pense que visiblement...
C'est sérieux hein.
Oui. Mais du coup, d'après ce que dit...
Ellie, oui.
D'après ce que dit Ellie, c'est que l'objectif que dessert Skype n'est plus cohérent avec son objectif à lui. Et donc, à mon avis, ce que Skype essaye de faire, c'est de s'ouvrir au plus grand public et aux personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique. D'où le fait d'avoir une interface plus ludique.
C'était, ils avaient aussi l'idée d'essayer de faire une espèce de réseau social et de market de trucs. Et d'ailleurs, ça, ils l'ont abandonné il y a un mois, justement. Enfin, ils ont annoncé qu'ils ont abandonné, mais ils n'ont pas retiré l'ancienne interface.
Et du coup, c'est difficile pour moi de déconseiller des logiciels parce que ça dépend toujours de dans quel but tu les utilises.
Oui. Ça, à quoi ça la première question qu'on devrait se poser, c'est à quoi ça répond. En fait.
Mm-hmm. C'est quel est mon besoin et
on
ne
fait pas un logiciel pour coder. Il faut que ça réponde à un problème.
Dans l'idéal. Mais ça dépend. En général, le logiciel libre ne commence pas comme ça. En général, le logiciel libre commence pour desservir un besoin personnel. Et c'est OK. Le problème, c'est quand il veut s'ouvrir à plus d'utilisateurs et qu'il n'y a pas d'adaptations qui sont faites.
D'un autre côté, quand on voit le thème matériel qui a été développé par Google, qui existe aussi bien pour des applications Android que d'ailleurs pour faire du site web, matériel est extrêmement propre. Qu'est-ce qui empêche le monde du libre de l'adopter ? Est-ce que c'est la licence ou juste Google, c'est le mal, tout ce qu'ils font, c'est mal ?
Je crois que c'est sous licence libre. Donc du coup, il n'y aurait pas de problématique de licence à le réutiliser. Mais je dirais qu'il y a quelque chose de plus éthique dans le fait de pas vouloir... En tout cas, moi, par exemple, je suis frileuse à réutiliser du matériel design parce que c'est très léché, mais dans ces cas-là, je propage la façon de faire de Google, qui n'est pas une façon de faire avec laquelle je suis en accord. Et donc, il faut que je dose entre est-ce que ça vaut le coup de tout refaire de zéro ou est-ce que c'est plus simple de réutiliser le matériel design de Google, sachant que du coup, ça propage ses idées.
Mais d'un autre côté, c'est un environnement dont le vocabulaire graphique, la grammaire de l'interface est déjà comprise d'utilisateur. Donc il y a une marche moins haute à monter justement pour les utilisateurs de l'outil en question.
C'est vrai, mais dans ces cas-là, on ne construit pas d'alternative, on se cale un peu sur le modèle de Google. Donc c'est vraiment toujours une balance à prendre en compte entre le coût que ça a de faire quelque chose de nouveau et la marche que c'est pour l'utilisateur et de à quel point c'est compliqué de l'accompagner. Et réutiliser du matériel design, ça peut être accompagner l'utilisateur.
L'accessibilité, bon, ce n'est pas vraiment le sujet. On a déjà consacré plusieurs émissions, il y en a d'autres qui sont prévues parce que c'est un thème qui est extrêmement large dans le terme de l'utilisabilité. C'est tout un pan qui est absolument fabuleux et extrêmement vaste. Mais quand elle n'est pas là, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que des fois, tu te poses la question, ça a été oublié ou ça a été volontairement sacrifié ? Voir, est-ce que tu as des exemples justement de cet oubli ou de ce sacrifice ?
En design graphique, il y a des façons de faire qui... prennent en compte ou pas les utilisateurs au niveau de l'accessibilité. Je pense au contraste de couleurs, je pense aux tailles de typo, mais de toute façon, la façon dont est conçue l'interface et l'organisation de l'application peuvent prendre en compte ou pas les besoins des utilisateurs qui ont besoin d'accessibilité. Et pour moi, ce n'est pas acceptable le fait de ne pas les prendre en compte parce qu'on parle juste d'inclure des humains ou pas dans ce qu'on conçoit. Donc ça prend en compte dès le début. Par contre, j'entends qu'il y a beaucoup de contraintes et qu'on n'est pas toujours au courant de tout ce qui se passe. Et donc, c'est une formation à avoir, mais en même temps, c'est un métier d'être designer. Donc, du coup, ça se comprend un petit peu que ça demande du boulot à côté pour se former.
Et surtout de l'expérience. On a déjà expliqué dans cette émission, un logiciel libre peut accepter d'autres contributeurs que des développeurs. Toi-même, est-ce que tu as contribué à du logiciel libre ?
Je suis en train de le faire. En ce moment même, on est en train de bosser sur Framadat, l'alternative à Doodle qu'héberge Framasoft. Et c'est possible parce que on le fait depuis zéro avec des personnes qui m'accompagnent et qui sont disponibles. Et donc, je me sens tout à fait inclus dans les prises de décision. Et donc, ça me permet de faire du super travail. Et ça, c'est vraiment... c'est vraiment agréable à vivre. Donc ça me permet de contribuer.
Et quel conseil donnerais-tu à des développeurs logiciels, voire à des responsables de projets, pour qu'ils acceptent des contributeurs type graphiste, designer, UX, ou même des contributeurs à la documentation ?
J'ai plusieurs conseils. Le premier que j'ai, c'est afficher en gros sur votre site une page dans la navigation pour que si jamais on cherche comment contribuer, on ait un lien rapide d'accès avec une page qui liste les propositions, les demandes, les besoins et une façon facile de vous contacter, ce qui n'est même pas ce qui existe sur les sites. Donc moi, la première fois que j'ai voulu contribuer, j'ai juste écumé des sites et jamais réussi à comprendre comment je pouvais contacter les personnes à part par IRC. IRC IRC, c'est OK si jamais ça vous convient, mais il faut comprendre que c'est quelque chose qui est plutôt utilisé par les personnes techniques et que donc, moi, avoir accès à un chat mieux mis en forme du genre Mattermost, ça me sécurise plus que de devoir déjà sortir de ma zone de confort rien que pour rentrer en contact avec les personnes. Donc il y a ça. Ensuite, donc il y a l'annoncer, il y a exploser clairement ses besoins, il y a rencontrer les personnes en vrai, il y a poser des annonces sur les réseaux sociaux et il y a montrer qu'on est accueillant et le prouver. Et déjà, ça sera pas mal.
Une séquence Mazo, je t'ai montré justement un des projets sur lesquels, puisque l'émission de CPU, il y a plusieurs concepts derrière. Il y a notamment du développement logiciel, notamment le player audio qui a été complètement retravaillé et qui a été déployé d'ailleurs au 1er novembre sur le site. Complètement retravaillé dans le code, mais pas du trop dans le design, puisque c'est pratiquement le même. On t'a donné un lien vers le repo GitHub du projet. Alors vas-y, qu'est-ce que tu as à me dire ? Bon, maintenant je sais que j'ai oublié un lien effectivement pour pouvoir me contacter rapidement.
Bah déjà, si tu me fais aller sur le repo GitHub, ça veut dire que tu me fais aller sur une forge logicielle, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille sur un endroit de développeur. Donc ça me...
Ouais, non, il y a un mini-site qui est hébergé sur le GitHub.
Mais quand je vois le lien... Ouais. Où il y a écrit GitHub, du coup ça me sécurise pas. Et ensuite quand je le vois, j'ai du mal à le juger quand je connais pas l'utiliser parce que moi des players j'en connais plein et je sais pas pourquoi tu l'utilises. Est-ce que tu as fait des tests utilisateurs ?
Oui, quelques-uns. Oui.
Et alors ça a donné quoi ?
Ah ben justement ils étaient contents de pouvoir sauter au chapitre de l'émission et l'un des contributeurs à l'émission CPU à une époque, Gaël Serres, qui est journaliste professionnel, qui a fait des interviews qu'après il a repris, il a vraiment adoré le fait que quand il rouvrait la page le lendemain, il se remette à l'endroit où il était ou qu'il puisse naviguer dedans. Donc de ce côté-là, bon, ouais, satisfaction pour l'instant, mais on a trop peu de retours de ce côté-là pour voir si on fait bien, quoi.
Et du coup, ça me permet de dire que, en fait, moi, mon métier de designer, je ne peux pas le faire si je n'observe pas d'utilisateur. Et donc, du coup, peut-être que ce que tu as fait, c'est du design. En étant derrière les utilisateurs et en voyant comment ils l'utilisaient, parce que je ne peux pas juger, parce que ça dépend du contexte d'utilisation de chacun.
Forcément. Hors sujet, pour ceux qui nous écoutent à la toute première diffusion, donc on est jeudi 15, si je me trompe, novembre 2018. Le Capitole du Libre, édition 2018, c'est ce week-end, 17 et 18 novembre, pardon, à l'ENSET. Quelle conférence aimerais-tu voir en priorité ? Donc, pas forcément d'ailleurs les conférences elles-mêmes, mais au moins les tracks, puisqu'il y a une dizaine de tracks en parallèle.
Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'aller voir les tracks qui parlent des enjeux du libre, parce que c'est un peu mon domaine de compétence. Et ensuite, il y a aussi un peu de financement du logiciel libre parce que j'aimerais bien savoir comment est-ce que le logiciel libre peut triompher. Et la question du financement me semble hyper importante. Et le reste du temps, je vais passer au Contrib Atelier de Framasoft, qui est aussi une bonne porte d'entrée pour recruter des nouvelles personnes pour vos projets libres.
Et en même temps, tu vas en profiter pour voir des projets libres qui sont sur place en leur disant « Mais vous ne pouvez pas refaire le logo, il est horrible
!» Je fais à peu près ça. Mais j'accompagne les personnes pour pouvoir faire des tests utilisateurs et je vais faire une conférence aussi. Donc du coup, on va faire...
Donc...
Ah, excuse-moi.
J'attendais ça, en fait. Ah, okay. Quelle conférence ?
Designer, accueillez-les tous. Et donc, je vais parler un peu de ce qu'on a dit là tout à l'heure, mais de comment on fait pour faire venir des nouvelles personnes dans son projet libre et notamment des designers.
Ça va être chaud. Je crois qu'il y en a qui vont tomber d'eau.
Moi, je pense que ça va être chouette et qu'on va prendre, on va prendre soin des gens.
Je l'espère bien. Maïwan, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu dans CPU. Et j'espère que ça t'a plu, malgré le bordel qu'on a pu mettre pour essayer de te déstabiliser.
C'était bien chouette.
On l'espère bien, en tout cas. Merci.
Merci beaucoup.
C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Cette release, l'équipe était composée de Daskrit Chief Painting Officer et Eugène Lowe Chief Patching Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU, de combustible numérique, de l'atelier TA qui nous accueille et de Radio FMR. L'intégralité du programme, des extraits et ses sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager, c'est en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR analogique, il est midi, un peu moins, enfin ça dépend à l'heure à laquelle parle l'enregistrement, mais bon, il est l'heure de céder l'antenne à Monique Blanquet, qui peut-être va nous parler des décors dans les théâtres, de l'importance pour l'accessibilité dans les dialogues, etc. Enfin, je ne sais pas. Allez, bien à toi Monique, c'est à toi.